Auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalungu, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos programmes qui sont diffusés par un réseau de 52 radios partenaires dans tout le pays. Bienvenue dans ce nouveau numéro du forum qui parle des erreurs médicales, comment les éviter. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un patient hospitalisé sur 300 décède d'un accident médical dans le monde. Jusqu'à 25% des patients souffrent de complications provoquées par des soins chirurgicaux à risque et chaque année, 1 million de personnes décèdent pendant l'acte chirurgical ou immédiatement après. Au Niger, plusieurs personnes ont vécu directement ou indirectement ces erreurs médicales, mais qui sont restées muettes. Les préjudices causés aux patients dans le cadre de ces soins sont inacceptables, soutient l'OMS. Mais qu'est-ce que l'erreur médicale? Comment la reconnaître? Qui est d'ailleurs autorisé à confirmer une erreur médicale? Quel recours en cas d'une erreur? Et surtout, comment les éviter? Pour répondre, j'ai sur ce plateau Dr Tankari Abdoulaye, il est le président de l'Ordre des médecins du Niger. Bonsoir docteur.
Bonsoir madame.
Docteur Damalam Kabirou, il est le secrétaire général du syndicat des médecins libéraux. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Nous avons au téléphone monsieur Neyoussa Jimrou, secrétaire général du mouvement pour une citoyenneté responsable. Je suis Nafis Adam Sirfou au micro. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir chez vous. L'erreur médicale, c'est le sujet de notre débat. Selon nos constats, plusieurs personnes ont vécu directement ou indirectement ces erreurs médicales, laissant des séquelles pour certains et d'autres ont déjà perdu la vie. Nous avons recueilli quelques témoignages pour vous sur la question. Je vous propose de les écouter.
C'était pendant ma grossesse. Arrivée à terme, j'ai eu des complications et j'ai dû subir une césarienne. Les agents de santé m'ont placé une sonde qui a fait 4 jours sans être enlevée. Et le jour où la sage-femme l'enlevait, elle a coupé une partie. Car je l'ai entendu dire à son assistante, « J'ai commis une erreur apparemment. » Et moi, je ne comprenais rien, car on ne m'a jamais placé de sonde auparavant. Elle m'a juste dit de me lever et de rentrer. Arrivée à la maison, j'avais des difficultés à uriner. J'avais très mal. Et ce n'est que 10 jours après que je sois rentrée d'un pansement. Je voulais uriner difficilement et un bout du tuyau est tombé. Et c'est là que j'ai compris de quoi il s'agit. Je vous assure, cela m'a provoqué des infections que je continue toujours de traiter.
Atilaberi, j'ai eu un accident d'injection lorsque j'étais jeune, j'étais en classe de CM2. J'ai eu une maladie, une fièvre typhoïde, que ça a un peu duré, on n'a pas pu détecter la maladie. C'est après qu'on a pu savoir de quelle maladie je souffrais. Et c'était en ce moment, j'avais eu tellement de piqûres qui m'a rendu un peu infirme. Maintenant, dès lors, il y a des gens qui me connaissent, et les gens avec lesquels on jouait. Maintenant, avec l'âge, maintenant dès qu'ils m'envoient, ils me disent que tu n'étais pas le gars qu'on connaît. Tu étais devenu handicapé. Je leur ai expliqué ma situation. Voilà, jusque-là, ma démarche n'a pas changé. Je peux dire que je suis toujours handicapé.
C'était dans un hôpital que j'ai subi une intervention à cause des douleurs au bas-ventre. Malheureusement, il n'y a eu aucune amélioration après l'intervention. Donc, un médecin m'avait préconisé d'aller dans un autre pays pour faire des examens. Ainsi, je me suis rendu en Inde. C'est là-bas que les médecins m'ont dit qu'une de mes trompes a été enlevée lors de mon intervention au Niger. J'étais surprise et désespérée. Je ne m'attendais pas à une telle information, car ils ont précisé qu'un médecin n'a pas le droit d'enlever un organe d'un patient à son insu. Le deuxième cas, c'est ma belle-sœur qui a également subi une césarienne lors de son accouchement. Les chirurgiens ont oublié un compresse dans son ventre. C'est ce qui s'est infecté. Elle commença à souffrir de maux de ventre. Elle s'évanouissait à tout bout de champ. Ce n'est qu'au cours d'une échographie qu'on lui a confirmé que c'était une compresse qui se trouvait dans son ventre. Les douleurs se sont multipliées et lui ont même coûté la vie.
Merci docteur. Vous venez là donc d'entendre ou d'écouter des témoignages qui illustrent ces erreurs médicales dans notre pays. Alors, docteur Tankari, je rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des médecins du Niger. Quelle réaction ces propos vous suscitent?
Bonsoir à tous.
Bonsoir, docteur.
Et ces propos ne me surprennent pas en tant que chirurgien. Je suis du domaine, je suis dans le milieu, on a vu plusieurs cas. Et je voudrais dire à nos auditeurs que l'Ordre national des médecins du Niger, en fait, ce n'est pas un syndicat. Nous sommes une corporation, une institution émanant de l'État. Donc nous sommes là pour aider l'État à atteindre ses objectifs d'assurer une bonne santé à la population. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes là aussi pour protéger les patients, la population. Et de troisième, le troisième niveau, nous sommes là pour défendre l'honneur de notre profession. Mmh. Qui dit défendre l'honneur de la profession dit défendre le médecin. Oui. Donc, tout ce que je vais dire, je veux le dire en tant que président de l'Ordre des médecins, sans arrière-pensée. La première patiente parlait de drain qu'on n'a pas enlevé. Nous, on appelle ça drain. Okay. Le tuyau dont elle disait. Donc, c'est un drain. C'est-à-dire, après une intervention, si le chirurgien pense qu'il y aura un petit saignement ou bien des sérosités qui vont rester dans le ventre, on met un drain pour pouvoir les évacuer, pour aider l'organisme à récupérer. Ces drains, en général, en 48 heures, on les enlève. Bon, elle a parlé de 4 jours.
Oui.
Peut-être si ça produit, on peut laisser jusqu'à 4 jours.
Ça n'a pas de conséquences.
Ça n'a pas de conséquences. Mais là où le problème se trouve, elle dit on la libère. Elle est rentrée à la maison avec le drain. Ça, ce n'est pas bon déjà. C'est pas bon de laisser un patient partir à la maison avec un drain jusqu'à 10 jours.
Elle parle même d'un inconfort pour uriner.
Oui, oui. Ah non, c'est 4 jours. C'est au 4e jour que le drain a été enlevé. Et très malheureusement, le drain a été enlevé par une infirmière, comme elle expliquait. Bon, l'infirmière, déjà, elle a été fautive. Quand vous enlevez un drain et que vous pensez qu'il y a un rédicat, il faut faire appel au chirurgien. Il faut faire appel au major qui est plus expérimenté, qui peut venir enlever. Mais très malheureusement, vous savez, nos structures publiques, en général, ce ne sont pas des infirmières qui sont engagées par l'État. Généralement, en majorité, ce sont des stagiaires, ce sont des vacataires, ce sont des volontaires. Donc, ces genres de personnes n'ont pas la déontologie, ils n'ont pas le savoir-faire. Vous voyez, la formation même, elle est au rabais. Et ils font tout pour cacher leur insuffisance. Donc, c'est ce qui s'est passé au niveau de cette dame-là. Elle a enlevé, il y a un reliquat, soit elle ne connaît pas qu'il y a un reliquat du drain à l'intérieur, soit elle a caché pour qu'on ne l'incrimine pas, pour qu'on dise qu'elle ne s'est pas enlevée. Si les supérieurs aussi ne vont pas la laisser partir parce qu'ils savent qu'il y aura des conséquences. Et les conséquences, c'est l'infection. Il a fallu 10 jours pour que ça puisse sortir avec l'infection qu'elle a entraînée. Et un professionnel assermenté ne peut pas laisser ça passer. Il ne peut pas laisser un patient partir avec un drain à la maison, un bout de drain à la maison. Pour le deuxième patient qui n'a pas d'injection, bon, les injections, maintenant, c'est pour cela, même au niveau international, on tend à laisser. Ça en fait, c'est des injections en IEM. On tend à abandonner ça. Et même ça, le problème qui devient de plus en plus récurrent, c'est toujours dû à nos formations. Parce que l'injection, elle a un site pour le faire. C'est la science, c'est démontré, c'est l'anatomie. Donc, chaque infirmier, chaque infirmière, chaque médecin, c'est là où il faut faire l'IEM. Mais comme la formation est toujours dérabée, c'est un problème crucial qui est là. Et quand vous voyez un médecin ou un infirmier qui fait une injection avec conséquence, ça veut dire qu'elle a été mal formée, ça veut dire qu'il ne sait pas faire l'injection. Donc, troisième patiente qui parle de l'intervention où on lui a enlevé une trompe, il a fallu qu'elle parle en Inde pour qu'on voit qu'une trompe a été enlevée. Ça, c'est une faute. Ça, ce n'est même pas une erreur, c'est une faute du professionnel.
Grave.
Oui, c'est une faute grave parce que vous ne pouvez pas enlever un organe d'une patiente et ne pas l'informer. Ça, c'est une faute, elle peut porter plainte. Et elle aura gain de cause. là où on a essayé de la laisser la compresse dans l'abdomen, ça aussi c'est fréquent, ça arrive. Ça arrive, c'est pour ça les pays avancés, les compresses sont préparées. Et après chaque intervention, on compte les compresses. Si une compresse manque, le patient ne peut pas être fermé. L'abdomen ne peut pas être fermé. Il faut qu'on cherche.
Il faut de la compresse,
ça, voilà. Donc nous, ça nous manque un peu, vu le poids du travail. On a trop de patients et on opère les patients à la chaîne. Voilà, c'est normal. Et il y a toujours la fatigue qui est là. Et c'est vraiment un problème de fatigue. Ça, c'est une erreur. On ne peut pas dire une faute. Parce qu'aucun chirurgien ne peut laisser une compresse dans un abdomen.
Vous parlez de fatigue qui peut vraiment entraîner ces erreurs ou bien ces fautes. Est-ce qu'une fatigue en elle seule peut entraîner une erreur médicale ou bien il y a d'autres facteurs?
Oui, la fatigue en elle-même, parce que quelqu'un qui est fatigué, déjà psychologiquement, il n'est pas au complet. Vous comprenez? La fatigue, c'est pour ça. Ailleurs, vous avez un nombre de patients à opérer dans la semaine. Vous avez un nombre de patients à consulter par jour. Et vous voyez, nous, nos médecins, comment on est dans les hôpitaux. Vous êtes au bloc, vous sortez, vous faites la consultation, vous faites la visite. Vous voyez, on a un nombre très, 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 très limité. C'est pour cela, moi, à chaque fois, quand je prends la parole, j'appelle les autorités. Le premier problème de notre système de santé, c'est le manque de personnel. Justement. En ressources humaines en quantité, en qualité. Donc, quand on est à un nombre très limité et que nos hôpitaux sont bombés de patients, et ce genre de choses peuvent se passer.
Nous allons revenir vers vous, docteur Tankari. Nous avons au téléphone M. Neyusa Jimrou. Il est le secrétaire du mouvement pour une citoyenneté responsable. Alors, M. Neyusa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Le droit à la santé au Niger est consacré par la Constitution de la 7e République en ses articles 12 et 13. Et selon des observateurs, les cas des erreurs médicales enregistrées sont souvent restés tabous dans notre société, plus encore des préjugés autour de la question. Comment vous abordez la question, vous?
Merci bien. En tant que néophyte du domaine, se bat pour les droits de l'homme, il est important de rappeler ceci. Il faut faire le distinguo entre la faute et l'erreur. L'erreur, tout le monde la commet. Administrativement, les gens le font. Dans le domaine judiciaire, on le fait. Dans le domaine médical, on le fait. Ça, c'est courant. Mais on peut minimiser cela lorsque les gens prendront la mesure de la gravité de la situation ou des actes qu'ils posent. Et que les gens assument leurs responsabilités et qu'ils aiment bien leur travail. Cela dit, un patient à qui on laisse certains matériaux chirurgicaux dans le corps et qu'on ferme le ventre avec cela comme résidu, je crois que ça pose énormément de questions. C'est la négligence, c'est le manque de professionnalisme, c'est la fatigue, ou bien qu'est-ce qui explique cela? L'un de l'autre, je dis, les médecins sont des êtres humains eux aussi. Ils sont sous la pression du travail, ils sont sous certaines contraintes. Bien qu'ils soient assermentés, il arrive des fois que ces erreurs soient commises. Mais certaines, je dis, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes. Et là, il faut obligatoirement sanctionner. Le patient a le droit de saisir les tribunaux également pour réparation. Donc, l'un de l'autre, ce qui est important, c'est que nous profitons d'abord pour encourager ces médecins qui font un travail formidable. Et ces patients encore qui sont patients ou qui semblent être impatients lorsqu'ils arrivent dans un centre de soins et qu'ils ne sont pas pris en charge, va être très bien. C'est une file, c'est une programmation. Mais cette programmation, il y a peut-être des comptes des patients. Il faut qu'on opère 3, il faut qu'on opère 6, il faut qu'on opère 7 dans un délai record. Et ça amène des fois les médecins et l'équipe médicale ou chirurgicale à commettre certaines erreurs et qui sont compréhensibles. Mais ici, chez nous, nous sommes dans un état de droit, c'est vrai. Nous sommes musulmans. Les gens, des fois, se remettent à Dieu.
D'accord.
Mon patient est décédé à l'hôpital. Je me remets à Dieu. Pourquoi je dois me remettre à Dieu? Parce que ce médecin a fait de son mieux pour sauver mon patient. Mais Dieu n'a pas voulu ainsi. Donc, cette affaire d'erreur médicale, je crois que c'est un pur occidental. mais ça arrive chez nous parce que de plus en plus, les gens sont enclins à défendre leurs droits.
Mmh. Alors, Nayusa, pour des contraintes, vous avez demandé à vous libérer. Mais une dernière question, quels sont les moyens possibles et raisonnables pour éviter ces erreurs afin que le droit à la santé soit effectif dans notre pays?
C'est qu'il y a, il faut que les personnes de la santé sachent qu'ils ont prêté serment. Notre prêté serment, c'est un sacerdoce. Dans cette activité de sacerdoce, les gens doivent avoir la tête sur leurs épaules. Mmh. Et je crois que chacun doit jouer sa partition dans la chaîne chirurgicale. Ceux qui ne sont pas autorisés ou qui ne sont pas conformes à le faire doivent s'abstenir de le faire. Maintenant, les médecins chirurgiens, assistés de l'anesthésiste, n'est-ce pas, et de certains infirmiers ou certaines infirmières, doivent s'assurer du matériel qui est sorti et qui est arrivé au bloc. Lorsque le patient est opéré, il faut faire un décompte de ces matériaux pour s'assurer qu'effectivement, tous ceux que nous avons utilisés, ils sont retrouvés dans le plateau pour qu'ils soient versés ailleurs. Mmh. Mais lorsqu'on est pressé et qu'on n'arrive pas à le faire et qu'on laisse certains matériaux dans le corps d'un être humain en tant que patient, lui-même déjà qui est dans l'état d'inconscience va être bien ce que ça cause comme problème. Mmh. Et je crois qu'il faut encore qu'il allège la pression chez les médecins. Parce que la pression, c'est elle qui amène ces erreurs. Mmh. Lorsque on va élargir le plateau technique, lorsqu'il y a un personnel qualifié et suffisant, mmh. lorsqu'il y a suffisamment de blocs opératoires, lorsque les gens sont spécialisés, je crois que nous pouvons minimiser ces erreurs médicales.
Mmh. Merci bien alors, monsieur Nayusa. À très bientôt.
Merci bien.
Nous revenons donc dans ce plateau avec vous, docteur Damma Lam Kabirou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des médecins libéraux. Alors, les erreurs médicales sont une réalité. Docteur Tankari l'a reconnu, si je peux le dire. Vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question aujourd'hui?
Voilà, merci madame. Je vous remercie et vraiment de m'avoir invité à cette table pour discuter de ce problème d'actualité et qui est international. Et je vous rappelle, aux États-Unis, il y a une étude qui a été réalisée en 2017 qui relève que 23% d'Américains sont directement ou indirectement victimes d'une erreur médicale. Donc c'est une réalité qui existe. Donc le Niger ne fera pas exception qui n'a pas un problème et un système de santé aussi performant que celui des États-Unis. Donc c'est une question qu'on doit prendre en compte et qu'on doit travailler avec. Au Niger également, et ces types d'erreurs sont très nombreuses. Et j'aimerais revenir un peu, sans faire le procès de ce qui s'est passé, mais juste faire la part des choses.
Sur les témoignages?
Sur les témoignages, voilà. Exactement, oui. Mmh. Voilà. Donc, il y a plusieurs problèmes qui sont évoqués à ce niveau. Notamment, il faut différencier les erreurs en tant que telles et les complications aussi. Mmh. Toute intervention chirurgicale peut avoir des complications. Donc l'important, c'est vraiment d'informer que tout acte peut avoir des complications. Même si toutes les mesures sont respectées, parfois il y a des complications. Seulement, le médecin est tenu ou l'agent est tenu avant même l'acte d'informer le patient qu'il y a risque de telle complication. Donc si ça survient, ce n'est pas extraordinaire. Il faut que... Donc pour ce genre de situation, il y en a, et notamment pour les injections. Mm-hmm. Selon c'est des complications, c'est pas forcément
il y a une erreur technique.
Il y a des médicaments produits qui sont eux-mêmes capables d'entraîner des complications comme ça. Et que si on est dans la situation, on est obligé de les utiliser, on n'a pas le choix. On utilise, on fait la part entre le risque. Il y a aussi le problème de communication. Par exemple, celle qui avait eu à qui on avait enlevé la trompe sans l'informer. Donc, vous voyez ça, c'est vraiment une grosse...
C'est une faute. Oui,
c'est une faute. Et là, c'est juste un problème de communication qui a entraîné cette faute. Donc là, c'est un sérieux problème de notre part qu'il faudra qu'on arrange et qu'on voit comment. Et maintenant, ça, c'est une des fautes, une des causes. Parce que pour comprendre le problème, moi, je pense qu'il faut savoir quelles sont les causes. Les médecins, malgré que je représente un syndicat, on n'est pas là pour nous défendre. Mm-hmm. Nous-mêmes, on s'approprie. La profession médicale, ce n'est pas vraiment comme toutes les autres. On travaille sur la vie humaine. Donc, on ne se remet pas à côté. On prend aussi au sérieux. Et il y a des publications. C'est pour cela que j'aimerais qu'on sache que on ne laisse pas mieux, on reste pas mieux par rapport à cette question. Il y a des publications qui ont été faites, même au Niger. Il y a, par exemple, en 2014, deux cas qui ont été publiés, dont un et les deux, malheureusement, sont décédés. Suite à un garrot qui a été laissé au niveau du membre. et au niveau et le deuxième cas aussi au niveau du membre inférieur, donc une injection d'extensiline qui n'était même pas opportune, donc il ne faudrait pas y avoir. Donc les raisons surtout, c'est clair la surcharge du travail au Niger. Par exemple, pour le premier cas dont l'injection a été faite, le garrot a été fait, c'était dans un centre à Maradi où il n'y a que trois médecins généralistes et une pédiatre. Et ils sont chargés de prendre en charge tous les cas de malnutrition du centre hospitalier régional. Donc, il y a une densité très importante, avec une fréquence. Ça veut dire que les médecins, au fait, avec leur nombre, ils ne peuvent pas faire de garde. Parce que si tu dois garder chaque trois jours, c'est impossible, tu ne pourras pas tenir. Donc, c'est les infirmiers qui font la garde. Et lors de la garde, un infirmier a laissé un garrot sur place. Et malheureusement, par la suite, ils n'ont pas suivi jusqu'à ce que ça ait passé 48 heures et ça a entraîné le décès.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous parlez de fatigue souvent, de surcharge pour certains médecins. Si un médecin juge qu'il se sent fatigué, ou bien est-ce qu'il devrait normalement faire cette intervention ou pas?
S'il juge qu'il est vraiment fatigué, il ne doit pas faire l'intervention. Tant qu'il voit que ça, oui, ça c'est clair. Mais il y a l'organisation du système qui est là, de telle sorte que vous ne pouvez pas être fatigué, vous ne pouvez pas dire que chaque fois vous êtes fatigué. Mm-hmm. Par exemple, dans le système on digère actuellement, après une garde, un médecin continue à travailler. Pour les autres professionnels, ce n'est pas le cas, mais les médecins, après une garde, ils continuent. Ils ne partent pas à la maison. Alors que maintenant, ça, c'est révolu dans les pays avancés. On ne fait plus ça.
Mais que diriez-vous à ceux qui disent que, ou bien qui lient ces erreurs médicales à un manque de formation, d'une bonne formation?
Bien sûr, ça fait partie. Par exemple, comme je vous dis, le deuxième cas, dont l'injection d'extensiline, c'était un infirmier diplômé d'État qui prend en charge le centre de prise en charge de malnutrition. Il n'est pas habilité, mais c'est la délégation de compétences. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Et c'est lui, au vu et de manière systématique, il a injecté l'extensiline alors que c'est juste de l'amoxicilline par voie orale qu'il devrait donner.
D'accord.
Donc ça, il n'est pas compétent et à la formation qui n'est pas du tout bien. Ça, c'est clair, c'est une réalité aussi sur laquelle il faudra agir. Mm-hmm. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas nier cela.
Mais en cas d'une erreur, mais qui est même habilité à la confirmer à la victime?
Exactement, bien évidemment, oui. C'est ça par rapport au témoignage de l'injection. On n'est pas sûr que c'est vraiment l'injection qui a entraîné.
Oui.
Donc, tout ça, là, il y a des choses dont on n'est pas sûr. Donc, il faut vraiment que ça soit une expertise qui le fait. Et aussi, il y a l'ordre des médecins qui est là. Chaque patient qui se sent touché par un problème et qui a un doute, il faut qu'il s'approche. Dans un premier temps, s'il pense qu'il n'y a pas de souci, il s'approche à son médecin. Il faut lui se confier à son médecin. Il faut lui poser la question pour qu'il décide. S'il n'a pas une oreille attentive, il peut aller à l'administration de l'hôpital ou bien même venir faire recours à l'ordre des médecins. Il est là pour défendre aussi bien les médecins, mais aussi la population et surtout pour la qualité des soins.
D'accord. Alors, on le sait, les médecins sont assermentés, comme vous venez de le dire. Alors, docteur Tankadi, aujourd'hui, quelle est la responsabilité même d'un médecin?
Bon, le médecin, avant même de commencer, le médecin prête serment. Donc, le fait de prêter serment, il prête serment devant ses pairs, devant ses maîtres, devant la population. Il prête serment d'être juste, d'être impartial, de garder le secret médical, de traiter n'importe quel patient qui vient vers lui et de garder l'anonymat. Et maintenant, sa responsabilité vis-à-vis du patient, vous savez, d'abord, il faut savoir que le médecin n'a pas obligation de résultat, mais il a obligation de moyens.
C'est-à-dire,
quand un médecin est dans une structure de santé, la structure de santé doit lui offrir tous les moyens nécessaires pour qu'il puisse exercer son art. Et quand il est en face d'un patient, il n'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation pour lui d'avoir des résultats. C'est-à-dire la personne est venue avec sa maladie, ce n'est pas parce qu'il l'a traité qu'à 100%, il a l'obligation d'avoir un résultat. Non, c'est une science qui est bien décrite. Il y a des patients, s'ils viennent, c'est juste vous essayez, et il y a des maladies qu'on ne peut jamais guérir. Mais vous pouvez soulager le patient. Vous pouvez le mettre dans des conditions psychologiques, vous pouvez lui expliquer sa pathologie et lui expliquer comment prévenir les complications.
D'accord. Alors, docteur, si certains perdent, si certaines des victimes perdent déjà leur vie, d'autres gardent des séquelles à vie, l'impact il est énorme. Est-ce que votre ordre vous êtes souvent saisi pour des cas?
Bon, pour le moment, on commence à être saisi. Il faut savoir que nous sommes un jeune ordre. On a commencé en 2022. Ben, depuis notre arrivée, nous avons trouvé un vide qu'on essaie de combler. Donc, en cas de problème, le patient doit contacter d'abord l'administration dans lequel, de l'hôpital ou bien du centre dans lequel il a été, et il pense être lésé. Si ça ne se résout pas, là, il peut venir vers nous. Et nous, on fait la confrontation, on convoque le confrère, il est obligé de venir pour s'expliquer. Et on essaie de faire notre enquête pour voir sa responsabilité dans l'acte. S'il est responsable, nous, on a le devoir de le sanctionner. Et on a le devoir de mettre ce patient-là dans ses droits. Oui. Maintenant, si le patient n'est pas satisfait, il peut aller directement à la justice. Mm-hmm. Ça, c'est son plein droit.
D'accord.
Et l'action judiciaire n'empêche pas l'action ordinale.
Mm-hmm. Oui. Et quelles sont les sanctions donc prévues à votre niveau même, avant que ça ne soit des sanctions judiciaires?
Nos sanctions, on a quatre types de sanctions. Il y a l'avertissement. Parce qu'un patient, un médecin qui est fautif, on peut l'avertir si on trouve que ce n'est pas grave. Deuxièmement, on peut le suspendre pour 3 mois, où il n'a pas le droit d'exercer la médecine sur le territoire nigérien ou ailleurs. Troisièmement, on peut le suspendre jusqu'à 1 an. Et on peut aller maintenant jusqu'au blâme. Le blâmer, c'est-à-dire c'est le radier de l'ordre des médecins. Donc quand vous
êtes... C'est-à-dire qu'il n'est plus médecin?
Il n'est plus médecin. Il n'a plus le droit d'exercer la médecine et au Niger et à l'étranger. Oui. Donc ça, c'est des cas extrêmes.
Il y a eu déjà un cas ici au Niger?
Non, il n'y a pas eu un cas. Pour le moment, depuis notre arrivée, il y a eu juste un avertissement.
Un avertissement. Docteur Kabirou, les erreurs médicales sont donc une réalité, mais est-ce qu'aujourd'hui, une seule erreur a-t-elle pu remettre en cause la crédibilité du médecin?
Oh oui, c'est peut-être la raison pour laquelle certains médecins n'aiment pas signaler s'il y a une erreur, parce qu'on est à l'ère des réseaux sociaux. Malheureusement, si un médecin commet une erreur, et aussi par inadvertance soit-elle, si les gens savent, ils peuvent ternir son image. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup ne veulent pas communiquer qu'il y a erreur. Mm-hmm. Sinon, si la population maîtrise le problème et qu'elle comprenne le concept selon lequel l'erreur est humaine, et le médecin est un être humain, il ne fera pas l'exception. Seulement, il faut créer les conditions pour qu'il ne puisse pas ou bien qu'il minimise ce risque d'erreur. Donc là, je pense que ça va amener les populations à comprendre et à diminuer ce risque de ternir l'image du professionnel.
Mais est-ce qu'on peut considérer une erreur comme une faute médicale?
Oui, en réalité, c'est différent, parce que la première, l'erreur, c'est vraiment c'est pas intentionnel. C'est honnête, la personne n'a pas voulu faire ça. Maintenant, la faute, elle... Parfois, ça peut être réel. Par exemple, celui qui a refusé d'informer qu'il a levé une trompe, c'est une faute qu'il a. Il a fait ça sciemment, il a refusé de dire. Celui qui a levé, ou bien maintenant...
Il a oublié la sonde.
Voilà, à l'intérieur de l'être humain, de l'organisme. Là aussi, elle sait et elle ne devrait pas laisser. Là aussi, c'est intentionnel. Ça, c'est vraiment une faute. Donc ça, c'est à différencier de l'erreur qui est vraiment humaine, où la personne avait oublié, malheureusement... Les conséquences peuvent être très graves, à tel point où elle peut avoir vraiment atteindre la vie de la personne, et c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger.
Donc c'est l'erreur médicale, elle est humaine selon vous. Aujourd'hui, comment l'annoncer à une victime pour ne pas vraiment aggraver la situation? Comment l'annoncer à une victime?
Oui, en réalité, bon, il doit y avoir un système bien organisé pour pouvoir faire cela, mais le médecin lui-même peut l'annoncer. Et c'est pour cela, au préalable, il faudra bien préparer le patient. Là, on le fait. Et si la personne vraiment connaît les règles d'éthique et de déontologie, elle se met dans le bureau, et elle organise bien et elle explique au patient tel que ça s'est passé. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de cas, même ailleurs, et ça se passe bien. Il y a vraiment des patients qui comprennent et on passe à autre chose.
D'accord. Nous avons interrogé un juriste sur la question. Donc, selon Maître Ali Moussa, huissier de justice et commissaire priseur près du tribunal de grande instance d'Agadez, une victime d'une erreur médicale ou ses ayants droit peuvent agir devant le juge compétent par une procédure judiciaire en vue d'obtenir la reconnaissance de responsabilité de mise en cause, c'est-à-dire le médecin, le chirurgien ou l'infirmière, et la réparation des préjudices causés. On l'écoute.
Il faut traiter cette question au cas par cas parce que l'erreur médicale peut provenir d'un cas fortuit comme cela pourrait provenir de la légèreté, de l'inadvertance ou même de manque de prudence de l'agent traitant ou du médecin ou de l'infirmier. Selon qu'il s'agit d'un cas fortuit ou d'un cas d'exercice illégal de la profession médicale, là les choses sont claires, la loi est très claire, les sanctions pénales prévues à cet effet sont connues. Le contrevenant peut encourir une peine de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement, mais s'il s'agit également d'une erreur qui prend sa source dans l'inactivisme ou dans la non-maîtrise de l'acte médical, ou alors d'un manque de connaissance intégrale de la profession, là, c'est autre chose. Maintenant, s'il s'agit également d'une erreur qui est survenue lors d'un acte médical, qu'il soit un acte chirurgical ou autre, auquel l'agent, le médecin, a pris toutes les dispositions nécessaires pour y arriver, mais malgré tout, l'erreur est survenue, en ce moment-là, le traitement accordé par la loi diffère du premier cas que j'avais cité. Et dans ce deuxième cas-là, à l'État qu'il faut faire recours par le canal du service contentieux de l'État pour dédommager, parce qu'on ne peut pas enfermer, emprisonner l'État. L'agent médical a agi avec sa casquette d'un agent public, donc d'un fonctionnaire de l'État. Donc l'État va devoir prendre en charge les réparations. Mais si c'est une faute pénale individuelle qui a été constatée à l'issue de l'acte médical, ou de l'erreur médicale survenue, en ce moment-là, c'est le recours devant le juge pénal qui va condamner l'agent indélicat et en même temps, probablement, les sanctions disciplinaires de la corporation qui vont s'abattre sur cet agent. Mais si ce n'est pas un fonctionnaire, parce qu'il y a des médecins privés, là, si les constatations ont permis à déceler qu'il s'agit d'une faute de l'agent, une faute pénale, compte tenu de l'inobservation des conditions qui peuvent aller vers un acte médical ou un diagnostic qui est mal posé par une advertance. Là également, c'est les sanctions pénales qui vont s'abattre et aussi l'interdiction de l'exercice de la profession à cet agent indélicat.
Alors, vous venez d'écouter Maître Ali Moussa, huissier de justice et commissaire priseur près du tribunal de grande instance d'Agadez, qui parle des dispositions juridiques en matière d'erreurs médicales qui peuvent aller de 6 mois, voire 2 ans d'emprisonnement. Que pensez-vous de ces dispositions, docteur Tankari?
Oui, effectivement, ce qu'il vient de dire, c'est la réalité. C'est la réalité. Bon, nous, en tant que médecins, vous savez, c'est difficile. Parce qu'un médecin qui est assermenté, qui est là pour soigner et qui se trouve à faire une erreur et qu'on le conduit en justice, bah, c'est difficile. Oui, il y a le pénal. Le pénal, ça veut dire qu'il doit répondre à la société. Le civil, il doit répondre au patient qu'il a lésé.
Alors, docteur Kabirou, les sanctions, ils sont d'ordre de différents ordres, que ce soit judiciaire au niveau ordinaire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de toutes ces dispositions?
Oui, c'est comme l'a dit le docteur, c'est une réalité. Il faut qu'elles soient appliquées. Et le problème qu'il y a, c'est que parfois, ce n'est pas appliqué. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, les erreurs parfois se répètent. Parce que s'il y a sanctions, d'aucuns seront beaucoup plus vigilants. Et vraiment, ils vont éviter de faire certaines fautes tant qu'ils savent qu'après, ils doivent répondre à l'acte. Et même dans la survie même des problèmes, si vous voyez des bénévoles faire des fautes, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas de compte à rendre. Mm-hmm. Et s'il y a la faute, en réalité, c'est le titulaire qui est responsable de la faute. Mm-hmm. Donc c'est pour cela, parfois, c'est un risque, le fait que les bénévoles fassent parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre et c'est le responsable, le titulaire du patient qui doit répondre à l'acte.
Alors, donc, docteur, qu'avez-vous à dire? Ces sanctions, il dit que ce n'est pas dans le général, ce n'est pas tellement appliqué ici.
Oui, ce n'est pas appliqué parce que, comme l'a dit le camarade Nayou Sajimara, ce n'est pas appliqué parce que nous sommes des musulmans avant tout. Vous voyez, donc quand ce genre de choses se passent, on dit que bon, c'est venu de Dieu, quoi. Dieu a programmé ça.
Alors, oui, docteur
Tantali. J'aimerais ajouter un truc. En réalité, et comme l'a dit le juriste, et les agents de santé ont trop peur, mais en réalité, toutes ces sanctions n'aboutissent pas à un délit pénal. Hein. Le plus souvent, quand c'est des erreurs, le plus souvent, ça n'arrive pas à la condamnation. La plupart, on ne condamne pas le médecin. Parce qu'on sait que c'est un être humain, il est capable. Et comme il l'a dit, quand c'est une erreur, il n'y a pas de faute dedans. C'est l'État même qui indemnise le patient.
Mais si ce n'est pas tellement appliqué, cela veut dire que le médecin peut continuer à faire des fautes, des erreurs?
Oui, bien sûr. Si, bien sûr, c'est des fautes. Mais c'est pas...
je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Comme dès le début, je vous ai dit, le médecin, il est assermenté.
D'accord.
Vous voyez, il a juré. Oui, il est assermenté. Et puis, un médecin, vous voyez, devant son patient, il donne tout. Il donne tout pour satisfaire son patient, pour le soigner, pour le soulager.
En 2017, l'Organisation mondiale de la santé a inauguré une initiative mondiale pour réduire de 50% les effets graves évitables des erreurs de médication dans tout le pays au cours des 5 prochaines années. Cette initiative vise à remédier aux faiblesses des systèmes de santé qui sont à l'origine des erreurs médicamenteuses et des graves conséquences qu'elles entraînent. C'est donc un défi à l'international. Ici au Niger, qu'est-ce qui est fait pour éviter la survenance d'une erreur, docteur? Quel est le concours de l'Ordre des médecins?
Le concours de l'Ordre des médecins, nous, c'est la sensibilisation de nos membres. Et nous l'avons commencé. Et la divulgation de notre code de déontologie, qui a assez d'articles, qui balise en fait le terrain à tous les médecins pour qu'ils puissent vraiment pratiquer leur art. Donc, de l'autre côté, le ministère de la Santé aussi fait de son mieux. Il y a aussi l'inspection générale des services aussi qui de temps en temps fait des descentes dans les structures privées comme publiques pour voir ce qui ne va pas. Donc, Inch'Allah, on est en train de se battre pour pouvoir atteindre ces objectifs-là.
Alors, docteur Damma Lam Kabirou, vous êtes aujourd'hui médecin en exercice sur le terrain?
Oui.
D'accord. Est-ce qu'une question un peu sensible, vous avez eu à faire directement ou indirectement face à une erreur médicale?
Ouais, indirectement, oui. J'ai vu un cas également aussi, malheureusement, qu'un garrot a été laissé et qu'on a dû, malheureusement, amputer le membre du nourrisson. Donc, là aussi... C'est malheureux et que c'est arrivé parce qu'on a oublié jusqu'à 48 à 72 heures le garrot et ça a entraîné malheureusement cela.
Et que fait votre structure? Vous êtes le secrétaire général des médecins libéraux. Comment vous vous y prenez pour vraiment éviter toutes ces erreurs, pour vraiment assurer des soins de qualité aux patients aujourd'hui?
Bien sûr, bien sûr. Je rappelle, libéraux, c'est ceux qui exercent dans le privé le plus souvent.
Oui.
Donc, en réalité, ces problèmes surviennent le plus souvent dans les hôpitaux. Moins dans les cliniques. Toutes les études ont prouvé à travers tout le plan mondial, ça arrive.
Est-ce que dans notre pays, c'est prouvé que c'est justement dans
les
hôpitaux?
Il n'y a pas une étude claire qui est là, mais c'est sûr que notre pays ne fera pas exception parce que les soins sont prodigués. Également, les patients sont beaucoup plus exigeants dans le privé. Donc, les soins aussi sont exigés. Donc, de manière globale, moi, ce que je propose et ce qu'on fait même dans le cadre de la sensibilisation de nos collègues, donc il faut vraiment intensifier la communication. La communication avec les patients, la communication avec les collègues. Dès que tu as un doute par rapport à une décision que tu dois prendre, tu appelles ton collègue, tu demandes son avis, il te donne, tu t'en sors. Avec le patient aussi, il ne faut rien faire sans communiquer. Il faut qu'on explique la pathologie du patient et il faut signaler également les erreurs tant que ça survient. Ça, c'est important. Ça fait partie des méthodes pour prévenir la recrudescence encore de ces erreurs. Il faut se mettre à jour sur le plan littéraire. La littérature médicale, elle est énorme, mais ce n'est pas une raison. Il faut qu'on continue à se mettre à jour pour ne pas faire des soins qui ne sont pas adaptés. Et il faut également faire des études, comme ça a l'habitude d'être fait. Il faut faire des études sur le domaine et ça permet d'évaluer on est à quel niveau et de voir quelles dispositions prendre. Donc, également, au niveau des autorités compétentes, il faudrait que la formation soit de qualité. Il faudrait que le personnel soit suffisamment recruté en nombre et en qualité. Et au niveau de la population, il faut qu'on brise la culture du blâme. Et il faut également savoir que ce n'est pas parce que et comment on appelle ça, l'erreur humaine aussi qu'on ne doit pas complètement signaler quand elle existe ou bien abandonner. Il faut qu'on crée les conditions. On a dit, et les conditions, c'est les conditions de prévention. On a dit une voiture fabriquée de telle sorte que au démarrage, s'il y a une marche arrière dedans, qu'elle ne démarre pas, parce que ça permet d'éviter les accidents. Donc également, il faut créer les conditions d'éviter. Et c'est en signalant ces problèmes qu'on arrive à les éviter.
D'accord.
Donc il faut que la population aussi s'approprie ce problème et s'adresse également à l'ordre des médecins pour pouvoir prendre en charge la question. Et donc, sur les réseaux sociaux, il faut éviter de publier des choses sans avoir la certitude. Aux patients également, il faut fournir l'effort de comprendre sa maladie. Parce que, par exemple, pour les cas qu'on avait dit, il y a une mère, elle est au courant, elle sait qu'il y a un garrot qui est là. Mais quand on lui demande, elle dit, elle pense que ça fait partie du traitement. Donc, il n'y a pas de communication. S'il y a une communication, si elle-même, elle dit, elle voit qu'il y a un truc et ça ne va pas, elle doit poser la question. Pourquoi ça, oui, et ils doivent lui répondre. Donc, il faut également fournir un effort de comprendre la démarche diagnostique. C'est très important. Parce que là, il faut se confier aux médecins, mais la confiance n'exclut pas le contrôle.
Merci donc pour toutes ces précisions. Je termine avec vous, docteur Tankari. Dans notre pays aujourd'hui, quelles sont les voies et moyens possibles et raisonnables pour éviter toute erreur médicale et pour assurer un soin de qualité à la population?
Bon, les erreurs médicales, vous savez, occupent une place centrale dans la hiérarchie des déficiences de l'organisation des soins. L'objectif, en fait, n'est pas nécessairement d'empêcher l'erreur, mais de traiter les circuits qui la favorisent et de mettre en place ceux qui la corrigent. Donc, quand il y a une erreur, c'est tout un dispositif qu'on doit mettre en place. Tous les concernés dans la chaîne de soins doivent être informés de cette erreur-là. On s'assoit, on s'explique, on voit d'où vient l'erreur, qui a fait l'erreur, rectifier pour que demain ça ne se répète pas. Mais on ne peut pas éviter les erreurs. L'erreur, comme on dit, elle est humaine. On ne peut pas l'éviter. Donc je ne vois pas par comment... On peut la diminuer, mais on ne peut pas l'éviter. Même en Europe, ils ont tous les moyens diagnostiques, tous les moyens thérapeutiques, mais il y a toujours des erreurs.
Alors si c'est inévitable, quel appel aux médecins alors qu'ils sont sur le terrain aujourd'hui dans l'exercice de leur métier?
Les médecins, c'est surtout la déontologie médicale. Il faut que les gens s'approprient l'éthique et la déontologie. Il faut que les gens travaillent ensemble, en collaboration. Il faut que les gens se remettent en cause. Parce que vous voyez, un médecin qui a fait 5 ans sur le terrain sans aller à une formation continue, il désapprend.
D'accord.
La science, elle évolue à une vitesse exponentielle. Donc il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on travaille ensemble, en synergie. On a des sociétés savantes. Ce sont des sociétés savantes. Chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, ils font des congrès. Ces congrès-là sont une tribune pour tous les médecins de la spécialité de venir exposer leurs travaux, mais aussi d'exposer leurs erreurs à la face du monde, à ses pairs, pour que les autres puissent éviter ces erreurs-là. Notre population, il faut qu'ils comprennent. Quand il y a un problème, de ne pas aller directement sur les réseaux sociaux. Parce que dès que vous mettez ce problème sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez tort. Il y a un problème, chaque hôpital a une administration. Partez à l'administration. Si vous n'êtes pas satisfait, venez à l'ordre. Nous, on va vous écouter et on va convoquer le médecin. Il va venir s'expliquer.
D'accord.
Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller à la justice, porter plainte. Vous comprenez? Mais passer dans les réseaux sociaux avec des insultes. Présentement, nous avons une plainte que nous allons déposer.
Oui, justement, comment l'ordre est saisi?
Par écrit.
Quelle est la procédure?
Juste vous écrivez, nous on va vous répondre.
Merci bien donc, chers invités. L'erreur médicale, elle est inévitable, mais elle est involontaire et elle reste réelle. Les victimes ne doivent plus taire des cas d'erreur. Elles ont le droit de faire recours, que ce soit au niveau de l'ordre des médecins ou bien des recours judiciaires. Aux médecins de faire preuve de professionnalisme, de vigilance, selon donc les interventions des invités présents dans ce studio, et à nos autorités de revoir le système sanitaire de notre pays, à savoir en rehaussant le taux des personnels, assurer aussi une formation de qualité. Et c'est ici donc que se referme le forum de ce jour qui avait pour thème les erreurs médicales, comment les éviter. Nous étions donc avec Dr Tankari Abdoulaye, il est le président de l'Ordre des médecins du Niger. Merci d'être venu. Merci. Dr Dambalam Kabirou du syndicat, secrétaire général du syndicat des médecins libéraux, merci à vous. Nous avions eu au téléphone M. Neyoussa Jimrou, il est le secrétaire du mouvement pour une citoyenneté responsable. Merci donc à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. La technique est assurée par Amina Hassan. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. À très bientôt sur le studio Kalangou. Au revoir.